On va rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bruno.
Jean-François, cette semaine, tu nous proposes la seconde partie de ta rencontre avec Alexia Danton de Figma.
Ben oui, cette semaine, on fait la suite de l'entrevue de la semaine dernière avec Alexia Danton de chez Figma. Et on parle d'effectivement l'événement, hein, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, le très gros événement de Figma. Et c'est effectivement vraiment très gros parce que c'est le seul logiciel pas mal qui reste dans la gamme des logiciels de ce genre-là pour conceptualiser des prototypes là, pour le numérique en général. Donc, étant les plus gros et comme l'offre d'achat d'Adobe n'a pas été acceptée, donc on passe maintenant à un autre épisode. Je pense que, comme on le disait la semaine dernière, Adobe ne reprendra pas le logiciel XD, donc il ne reste vraiment que Figma dans le marché. Et on sent une petite expansion philosophique dans l'événement de cette année. Là, on ne parle pas juste de Figma, de ses améliorations, mais on y va dans le sens plus large d'une conférence sur le design. Ça a l'air ça promet, je dirais, d'être pas mal intéressant.
Ben voilà, la table est mise, on va aller écouter ça. Merci pour cette suite. Et puis, Jean-François, nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir, Bruno, comme d'habitude. À la semaine prochaine.
Allez, bye.
Bye.
On écoute tout de suite cette suite de l'entrevue avec Alexia Danton.
Bonjour, Alexia. Parle-moi donc de Config 2024. Ça arrive donc bientôt, c'est en juin, vous venez de sortir la programmation. Parle-moi-en un peu, il y a des thèmes déjà. Parle-moi des thèmes qui vont être abordés lors de cette grande conférence.
Merci de m'avoir à nouveau, Jean-François. On a une super conférence qui arrive fin juin. Ça va être à San Francisco, en présentiel, pour ceux qui ont la chance de venir en présentiel. Et évidemment, comme on sait, on n'a pas forcément envie que tout le monde viennent directement, parce qu'on sait que ce n'est pas possible pour tout le monde. On aura une partie à distance en virtuel que les gens pourront rejoindre. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Comme tu disais, on a sorti la programmation il y a très peu de temps. On a à peu près, je crois, plus de 75 speakers avec des grosses pointures. On retrouve quelques têtes de l'année dernière, mais on a quand même pas mal de nouveaux profils. On a les grosses, comme je disais, les grosses pointures, on a du Disney, on a le VP design de Slack, on a vraiment des grosses boîtes.
Oh,
on a aussi des wildcards, donc j'ai hâte de parler. Ah. Et les cinq grands thèmes qu'on a cette année, alors on a une thématique qui est très orientée sur la notion en fait de création de produits au sens très large, où ça va parler à la fois design, à la fois produit, donc qu'on appelle en anglais « building world-class products », en chinois dans le texte. On a une deuxième partie qu'on va appeler, en gros, code et design, où on va vraiment se concentrer sur la relation entre le design et le développement. On va avoir une partie qui va être très ancrée sur le craft design en particulier, où là, ça va vraiment, on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans la partie très geek du design. On a une partie qui s'appelle The Future of AI, où évidemment, on ne peut pas y échapper. On est en 2024, ça va parler d'IA. Et là, c'est la partie très intéressante qui risque de prendre un peu la main stage. Comme je le disais, on a un peu eu la volonté de rebattre un peu les cartes cette année et de faire des choses qu'on ne nous attendait pas forcément, parce que c'est aussi ça, être créatif. Et on a une partie qui va s'appeler Designing for Everything. Et c'est du coup une partie qui va au-delà du digital, où en fait, on va juste faire intervenir des gens qui sont dans la création au sens très, très large.
Wow.
Des installations artistiques jusqu'au film, jusqu'à énormément de choses. Alors, je pense notamment dans les speakers auxquels les gens ne s'attendent pas forcément. On a le réalisateur du film Capote et Moneyball qui va venir, Bennett Miller. On a le cofondeur de Team Lab, pour ceux qui aiment faire les expositions d'art contemporaine. C'est les expositions, peut-être que vous avez déjà vu les photos, c'est les installations interactives lumière avec lesquelles on peut interagir dans l'espace.
Oui.
On a qui d'autre d'intéressant? On a Simon Green qui est créature designer pour Disney, qui fait en fait,
wow.
Si vous voyez des créatures dans des films, il y a des personnes qui réfléchissent à ça ressemble à quoi une créature qui n'existe pas, et comment est-ce qu'on l'a créée, à quel point ça ressemble et comment est-ce que derrière on lui donne vie. Il y a des gens qui font ça et donc on les invite aussi.
Mais c'est bien, c'est génial, parce que quand même, à travers l'utilisation de logiciels comme Figma, à un moment donné, on commence à avoir l'impression de créer des techniciens, mais avant tout, les gens qui utilisent Figma, c'est des designers, des créatifs, des créateurs qui veulent réinventer le monde, réinventer les interfaces une à la fois. Donc, c'est vraiment intéressant comme thème, très, très complémentaire. Mais l'AI va être là aussi. L'AI inquiète tout le monde, tous ceux qui sont sur le terrain de première ligne, surtout dans le domaine du UX. On se demande où ça s'en va. On a entendu parler dans l'année qui vient de passer de la possibilité de créer de l'interface avec de l'AI, comme les codeurs sont un peu nerveux aussi à savoir comment leur métier va être défini par l'AI. Donc, c'est une belle ligne qui devrait prendre de la place aussi, probablement.
Bah, tout à fait. Alors, il faut savoir, du coup, que pour ceux qui ne connaissent pas très, très bien Config aussi, c'est le gros moment de l'année où, en fait, on fait nos grosses annonces produits. C'est-à-dire qu'on sort évidemment des updates produits tout au long de l'année, mais on en réserve quand même sous le coude deux, trois qui ont un fort, très, très, très fort impact, où on sait où les gens vont être soit ultra intéressés, ou en tout cas, ça peut être soit des fonctionnalités pardon, très attendues, soit des fonctionnalités pas forcément attendues. Je pense notamment à DevMode l'année dernière, en fait, qui est arrivé un peu en sous-marin. Les gens ne savaient pas forcément qu'on travaillait dessus, contrairement aux variables et aux design tokens, où on avait parlé très publiquement du fait qu'on savait que c'était attendu et qu'on allait sortir.
Oui.
Exactement. Mais DevMode, c'était quelque chose. Les gens ne savaient pas qu'on travaillait dessus. C'est sorti et ça a créé du coup un gros engouement. Ça a créé beaucoup d'impact. On voyait sur les réseaux, beaucoup de discussions sur c'est un parti pris vachement intéressant.
Mais oui.
Aussi, il y a des gens qui se posaient pas mal de questions sur la tête que ça allait prendre. C'est normal. Et du coup, donc, cette année, à nouveau, on va sortir des choses. J'ai pas le droit d'en parler. Je sais lesquelles, mais je vais pas dire. Et alors, bon, ça par contre, si je peux spoiler dans le sens où je pense que ça ne surprendra personne, effectivement, que l'IA va faire partie d'une façon ou d'une autre de certaines des choses qu'on risque de sortir. Mais après, le comment, c'est là où ça devient très, très intéressant. Et c'est là où, en fait, Figma a un peu sa propre approche des choses. Et on est tout à fait conscience chez Figma qu'il y a énormément de discussions sur l'IA, sur l'impact que va avoir l'IA sur nos métiers, sur nos vies quotidiennes. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que le parti pris qu'on a de ne pas aller à fond très rapidement. Enfin, je me souviens, l'année dernière, tout le monde nous attendait en 2023 sur l'IA parce que c'était le sujet du jour dans les mois qui précédaient.
Oui.
Et on en a beaucoup discuté, on a créé beaucoup d'espace pour discuter de ces sujets-là. On a fait venir des pointures, je pense notamment à Beta Simpsons qui travaille sur la partie UX Machine Learning à Google qui revient cette année également.
Wow.
Qui avait été extraordinaire l'année dernière. Je recommande d'ailleurs sa talk, elle est disponible sur YouTube si vous voulez la revoir. Et donc, on fait venir ces différents. L'année dernière, on avait créé ces espaces de discussion-là, mais on n'avait rien sorti de concret. On avait annoncé le rachat de Diagram, qui maintenant travaille avec nous main dans la main depuis un an. Mais parce qu'il y avait cette volonté, en fait, de ne pas tomber dans le hype cycle dans lequel tout le monde était, de se dire, ça ne sert à rien de créer des choses juste pour les créer, juste pour dire, on est dedans, on est sur le coup. On reste une entreprise centrée design first and foremost. Et du coup, la question, c'est, good design avec IA, ça ressemble à quoi? Et donc, il y a plein de choses différentes sur lesquelles on est en train de travailler, je ne veux pas pouvoir détailler. Mais cette année, donc, on va sortir des choses là-dessus. Mais forcément, on recrée des espaces à nouveau de discussion autour de ça à Config. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, ça ne va pas prendre tout l'espace. Ça va prendre un gros espace. Je ne dis pas, on est très, très, je pense, enthousiaste sur les choses sur lesquelles on travaille. On pense qu'on a vraiment réussi à trouver des endroits où ça va vraiment apporter de la valeur. Et comme je disais, un peu faire du good design, c'est-à-dire good design is no design. Good design, c'est le design invisible.
Exact.
C'est le truc qu'on le fait, quand on l'utilise, on se dit que ça aurait toujours dû être là et on ne le remet même pas en question.
Exactement.
De la même chose avec les...
Ah ouais, bien vu. Donc, ça promet ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est un angle, je pense que tout le monde s'y attend un peu. En fait, c'est pas une question qui est inquiétante autant que on veut savoir comment on va l'intégrer intelligemment. Tout le monde veut le savoir. Et c'est vrai que l'année dernière, à la même époque de Config, en juillet, juin, c'était trop tôt, je crois encore. Le ChatGPT venait de sortir. Tout le monde était un peu étourdi par ce que ça pouvait faire. Et là, on commence à se demander, en tant que designer, comment on peut l'actionner? Comment on peut utiliser cette puissance-là dans nos designs? Mais comment nos outils de design vont être actionnés par l'IA aussi là, dans les prochains mois. J'ai bien, bien, bien hâte de voir ça. Ça va être un événement.
J'ai hâte qu'on puisse le présenter à tout le monde. Et ce que je disais, même au niveau de la programmation, du coup, on va à nouveau avoir des grosses, grosses pointures. Et je disais, on a beaucoup, beaucoup de sujets sur l'IA pour parler de trois entreprises. Je ne sais pas si les gens ont vu passer le petit boîtier qui s'appelle Humane, qui a fait un petit peu le buzz à un moment donné.
Oui, qui est du nouveau interface.
On a le président et le chief design officer du coup de Humane qui viendra parler. On a le CEO de Perplexity IA. On a qui d'autre qui est assez intéressant? Alors, on a l'ancien CEO de Instagram qui maintenant est CEO de Artifact et qui justement travaille sur des problématiques de machine learning. Comme je disais, on a Obeta Samson qui va revenir. Bref, on a beaucoup de monde. Mais ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'à côté de ça, il y a un vrai ancrage dans les discussions autour du craft et de la création qu'on va aussi avoir. Et je pense que du coup, le fait d'avoir ces deux-là en équilibre l'un avec l'autre, c'est ça qui va vraiment apporter de la valeur dans la discussion. Si on restait tout le temps avec tech et IA tout le temps, on perdrait beaucoup de dimensions. Et en fait, c'est justement cette interface avec la notion de créativité qui va être intéressante et de repenser la notion de créativité en interface avec l'IA.
Et ça ramène au questionnement qu'on se posait dans notre précédente entrevue la semaine dernière, c'est quoi la valeur d'un designer à l'intérieur d'une organisation qui sont encore très majoritairement gestion, IT, et nous, on vient challenger ces préceptes-là, on vient challenger leur façon de faire. Donc, l'idéation et ce que vous voulez présenter dans cet événement-là, c'est très porteur, c'est super intéressant.
Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, justement, dans un contexte où le métier qu'on fait n'est pas toujours compris, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent en se disant, mais est-ce que du coup, les gens vont pas, les autres, nous, on sait qu'on apporte de la valeur, mais est-ce que d'autres personnes risquent de penser, ne serait-ce que temporairement, qu'en fait, ils n'ont plus besoin de nous, quoi. Comme je disais, encore une fois, Il faut qu'on revienne. J'ai vu ce documentaire il y a quelques semaines. Il était en replay. C'est un documentaire de 2009 qui s'appelle Objectified, qui est sur le design industriel. Et il y avait les débuts balbutiants du design d'interface qui sont évoqués dedans. Et moi-même, je viens d'un background, d'un parcours de design industriel à l'origine. Donc, c'était le genre de choses qui me parlait beaucoup. C'était ce type de documentaire que je consommais à l'époque quand j'étais dedans. Et en fait, revenir là-dessus, Ça m'a permis de revenir à vraiment à la question de base de c'est quoi le design, pourquoi est-ce qu'on design, c'est quoi la valeur, c'est pas juste la valeur business, même si c'est ça qui nous aide à nous justifier.
Oui.
mais c'est vraiment en fait le fait d'apporter un point de vue. Et je pense qu'en fait aussi en parlant tout le temps des métriques, parce qu'on a l'impression qu'on est tout le temps en train de devoir se justifier, parfois on perd un petit peu de vue en fait le fait que on apporte une perspective, enfin que le design c'est pas juste un jeu de métriques. C'est aussi un jeu de point de vue, un jeu de perspective. Que ce qu'on apporte, c'est vraiment des notions, pas philosophiques, mais peut-être éthiques aussi. Mm-hmm. En tout cas, juste en gros, good design.
Ouais.
C'est pas juste le design qui marche. C'est un peu une espèce de magie supplémentaire. Et ça, le fait d'arriver à identifier, non seulement le créer, que ce soit par composition, parce que c'est peut-être pas juste des trucs qui viennent de notre tête tout nu. Hein, ça peut être. De toute façon, la créativité, c'est rarement des choses qui naissent dans le vide. C'est toujours des vœux d'influence, de morceaux de puzzle qu'on a récupérés à droite, à gauche et qu'on décide d'assembler différemment.
Des contraintes, etc., des enjeux, oui, effectivement.
Exactement. Et ça, on pourra toujours le faire. Et du coup, la façon dont on arrive à créer de la culture ou des moments de culture, arrive à créer du zeitgeist, arrive à créer des choses par ce jeu d'imbriquage que nous, on fait en tant que esprit créatif, en tant que designer, ça, je pense que ça restera toujours. Et pareil, comment est-ce qu'on crée des choses où nous, intuitivement, on sait que ça aurait toujours dû être là, ou en tout cas, les gens, ils vont toujours avoir l'impression que c'était ultra naturel de l'avoir. Mmh. Pareil, ça, je pense que c'est pas forcément... Ça demande une certaine sensibilité. Et c'est cette sensibilité, on en parlait la semaine dernière, du fait de devoir assembler tout le monde en atelier pour avoir justement toutes ces perspectives et avoir un peu tous les biais cognitifs différents qui s'annulent les uns les autres. Et je pense très profondément que tout le monde n'a pas forcément cette perspective-là, et c'est une des perspectives que nous, en tant que designers, on peut apporter.
Exactement. Wow. Donc, écoute, config 2024, on s'y retrouve, parce que si toutes ces choses-là sont discutées, là, ça va être vraiment passionnant. Parfait, Alexia. Merci beaucoup pour cette seconde entrevue.
Merci beaucoup à toi encore, Jean-François.